7h18. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, Guy Daliberté s'est fait dire que son voyage dans l'espace n'est pas une dépense de compagnie.
Oui, Stéphanie Grandmont sort un article ce matin en disant « Écoutez, Guy Daliberté est allé devant la Cour canadienne de l'impôt et a dit « Écoutez, moi, mon voyage de 42 millions de dollars pour aller dans l'espace, c'était à des fins d'affaires. C'était pour aider le Cirque du Soleil à performer. » Bon là, Paul, on va s'entendre. Tu sais, quand tu déduis une dépense de même, c'est comme déduire des vacances de ton entreprise. T'as pas le droit, faut que tu te verses un avantage imposable. Il dit « Ouais, mais il y a eu des retombées là pour ma compagnie. » Il dit « Ok, le juge a dit « Ok, m'a donné 4 millions de retombées de publicité pour le cirque. Le reste du 38 millions, ben ça va être un avantage imposable pour toi, donc imposable au gros taux, donc 18 millions à payer en impôts. » Bon, toi et moi, Paul, on va pas s'inquiéter pour l'avenir de Guy Laliberté.
Non.
Mais c'est intéressant de voir, ça c'est un exemple décadent de dépenses d'entreprise tentées, okay? Mais il y en a d'autres. Moi, je vais donner un parallèle avec le Québécois moyen, ce qu'on voit souvent dans les entreprises. Le plus gros classique, Paul, d'avantage imposable personnel qu'on utilise dans l'entreprise, c'est d'immatriculer sa voiture F et s'en servir à des fins personnelles pour aller au camping, pour aller au restaurant le soir ou pour aller voir la belle-sœur dans le Wisconsin. Tu comprends que ça, t'es supposé te dire que c'est un avantage imposable parce que le kilométrage t'a servi à aller voir ta famille. Même chose avec un support restaurant avec un conjoint, un ami. Acheter un ordinateur à des fins purement personnelles, mais le déduire dans compagnie, mais c'est ton enfant au cégep qui l'utilise, un classique. Acheter du mobilier de bureau qui reste 2 semaines dans l'entreprise, qui se retrouve chez vous après, pour ta plus grande qui va rentrer à l'université. Les influenceurs, Paul, les influenceurs, ils reçoivent des cadeaux. Ils reçoivent des fois des voitures à utiliser gratuitement, des soupers au restaurant, de l'hôtel. Ils disent « Hey, c'est pas des fins personnelles, là, c'est pour faire la promotion, je suis payé pour ça. » Mais des fois, il y a un avantage qui est imposable puis c'est pas déclaré. Tu sais, une sortie de famille en skidoo ou en bateau, mais que la facture d'essence est payée par la compagnie de déménagement, ça fonctionne pas. L'épicier qui paye jamais une maudite salade de sa vie parce que, dans le fond, il met ça dans ses pertes d'épicerie, mais c'est un avantage imposable. Et Paul, j'ai découvert le dernier scheme de billet d'hockey.
Billet d'hockey?
Oui, monsieur. Écoute bien ça.
Vas-y.
Je t'avais déjà parlé que les gens l'utilisaient à des fins personnelles, même quand c'était pour des fins d'affaires, mais là, les gens vont un peu plus loin. Remercions la fraude fiscale au Centre Bell, s'il vous plaît. Regarde bien ça. La personne met ses billets de saison d'une coupe de 1000 dans sa compagnie. Donc, les déduits à 50%, c'est des frais de représentation. Mais en vend la moitié cash à des amis. Donc, regarde la patente. D'un côté, tu déduis fiscalement tes billets de ton revenu d'entreprise. Et après ça, tu vas cacher personnellement la vente de la totalité ou partiellement des billets. Donc, t'es en train de frauder le fisc big time, tes billets de saison ne coûtent pas une scène, puis en plus, tu sais, tu peux faire de l'argent avec ça, même en les vendant pratiquement au cost. Et ça, Paul, va sur Facebook. « Ah, j'ai des billets de hockey à vendre, ceux qui en veulent, je les vends au coût. » Vous trouvez pas ça bizarre que quelqu'un qui a des billets de saison vous fasse un prix d'amis sur des billets de hockey? Je veux bien croire que le Canadien est poche puis que Paxurity est parti, mais ça, c'est une façon de frauder le fisc. Et un autre classique, Paul, l'entrepreneur qui se bâtit une maison sur du temps perdu de client. C'est-à-dire que la personne va déduire des matériaux de construction, va déduire des employés, mais ne paiera pas de façon personnelle sa maison, et qui plus est, la revend 10 ans plus tard, 1,5-2 fois le prix, en n'ayant pas d'impôt parce que c'est exempté le gain en capital sur la résidence principale. Donc quand vous voyez un entrepreneur en construction avoir une méga maison, puis qui déclare dans sa compagnie 10% de rendement, tu dis, mais comment il fait? Eh bien voilà, il peut faire ça comme ça, Paul. Donc Guy Laliberté a fait à grande échelle ce que beaucoup de Québécois font à petite échelle.
Ben là, écoute, tu nous as donné la liste, pas complète, mais quand même intéressante.
Mais là, je vais pas donner des trucs au monde à matin.
Non, mais c'est, écoute, c'est vrai.
C'est là comme ça que ça marche.
Mais tu sais, en même temps, ton auto, si tu t'apprends pour le travail, tu peux en déduire une partie pour le
tout
travail, puis une partie pour les
impersonnels. Tu calcules ton kilométrage, tu tiens un petit carnet, et mettons que tu t'en vas à Bromont, mais là, tu dis ça, c'était à des fins personnelles, j'ai parcouru 63 kilomètres, et à la fin de l'année, tu dis, bon, j'ai parcouru 60% des fins d'affaires, 40% des fins personnelles, je vais m'imposer sur le 40%. Mais c'est drôle, hein? Il y a beaucoup de monde que leur voiture tourne plus à 75, 80, 90 pour fins d'affaires. Drôlement.
Dis-moi donc, qu'est-ce qui se passe avec Dollarama?
Aïe, aïe, hein? 17% de chute hier. Ouch, ouch, ouch. Pourtant, l'entreprise fait-elle des profits? Oui. Les ventes sont-elles en croissance? Oui. Est-ce que c'est du capitalisme sauvage? Non. C'est la loi de la finance. Une valeur d'action En bourse, c'est l'actualisation en temps d'aujourd'hui de tous les revenus futurs anticipés. Évidemment, chez Dollarama, on anticipe tellement de croissance que là, on a fait moins de croissance que prévu. On voulait 4-5, on est peut-être plus dans le 2-3. Donc, évidemment, les analystes paniquent, prennent toutes les actualisations futures, ramènent ça à un montant inférieur. Et quand on ramène ça en date d'aujourd'hui, ça baisse la valeur de l'action, vente massive d'actions. Donc, tu vois l'impact que ça peut avoir, juste des résultats en hausse, mais qui n'ont pas la valeur prévue. Et quand on regarde le ratio cours-bénéfice de Dollarama, c'est-à-dire le nombre de fois qu'un actionnaire paye le bénéfice par action pour avoir l'action, on est à 28 fois. Et ça veut dire qu'on pense avoir de la croissance. Juste comparer, là, Apple, on paye 20 fois, Facebook, on paye 25 fois. Donc, selon le prix de l'action en bourse, même après la chute, les actionnaires prévoient plus de croissance chez Dollarama que chez Apple et Facebook en pourcentage. Et si tu compares avec une banque qui a une croissance régulière, on est plus à 11. Et si tu compares à deux entreprises qui ont des croissances débiles, donc Netflix, on paye 168 fois le bénéfice par action parce qu'on pense qu'il y aura de la croissance, et on est au côté d'Amazon, c'est 157 fois. Mais Paul, on fait de l'argent, on fait plus d'argent qu'hier, mais malgré tout, 17% de chute du titre. Incroyable.
Est-ce que c'est le temps d'acheter?
Ben Paul, c'est toujours le temps d'acheter. La question, c'est, est-ce que tu vas acheter dans une hausse à court terme ou à long terme? Tu sais, achète tous les mois, mets ton prélèvement REER à chaque mois, Paul, et tout va bien aller. Parce qu'oublie pas, chaque fois que tu achètes une bébelle chez Dollarama, il y a 40 cents de marge pour le vendeur. Et Paul, je te dirais pas que David City, ça augmente un peu en bourse, mais ça va pas bien les résultats, tu sais. Et Manon Massé dit que la souveraineté va régler tous les problèmes de libre-échange dans le débat hier. Ça a été surprenant.
Oui, c'est une affirmation un peu
beaucoup de monde
qui mériterait d'être détaillée.
Oui.
Salut, bon week-end. Salut. 7h25.